Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Nous n'allons pas très loin aujourd'hui, mais peut-être que vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas, Ponteil et Brésis, un petit, on va dire un village, non, c'est un ensemble de, un hameau,
une commune.
Heureusement que Agathe et Bruno viennent à mon secours. Un coin de terre en Cévennes, voilà le titre de cette émission, et un très beau livre, donc publié aux éditions Bay, dont le directeur est Bruno Dehan. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et la journaliste pour ce carnet de voyage, Agathe Vaudoin. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors c'est une histoire qu'il faut raconter, un très beau livre, hein, donc aux ateliers Bay, 20 euros dans toutes les belles librairies. On reconnaît votre patte Bruno hein, dans cette façon de travailler, de faire un bel objet, parce qu'un livre c'est déjà un bel objet, ce n'est pas qu'un simple carnet. Et vous allez travailler ensemble sans vous disputer, c'est vraiment un échange, c'est vraiment une collaboration.
C'est Agathe qui sait si on ne s'est pas disputé, non.
Non, ça a été entre nous assez fluide. Après, évidemment, il y a eu parfois des doutes en ce qui me concerne, moi, mais on en parlera peut-être un peu plus tard quand j'ai rencontré des habitants. Mais pour la concrétisation du livre, de l'ouvrage et de la manière dont on allait le faire avec Bruno, ça a plutôt été très agréable.
Alors Bruno, c'est vous qui avez pris l'initiative. Quand le conseil municipal vous a contacté, vous vous êtes dit, c'est Agathe qu'il me faut.
C'était pas de suite, mais c'est venu assez rapidement parce que on discutait ensemble avec le conseil municipal et eux ne savaient pas quel profil exactement.
En fait, ils voulaient faire un livre, une brochure.
Ils voulaient faire un livre, faire un portrait de la commune, mais plutôt dans leur esprit au départ, c'était vraiment des témoignages un peu sur le passé, sur l'expérience des anciens ou des nouveaux habitants, etc. C'était un peu flou. Et après, moi, je leur ai vivement conseillé de travailler avec une reporter, une journaliste. Donc, je leur ai présenté Agathe, ça s'est très très bien passé. Et voilà,
ils sont très heureux du résultat.
Voilà, ensuite, tout s'est déroulé avec...
Enfin, ça s'est déroulé, ça a pris tout de même 2 ans,
ouais.
Donc c'est un long travail. Je dis le titre, Ponteil et Brésis, un coin de terre en Cévennes, carnet de voyage Agathe Baudouin, atelier Bay. Votre nom n'apparaît pas, Bruno, mais quand on voit la table des matières, en fait, il y a vraiment deux parties, mais qui cohabitent très bien. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se dire, oulala, c'est de qui? Et on peut feuilleter, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre les carnets techniques, en fait, d'une part, c'est bien noté dans la table des matières, ou on peut prendre l'écriture, qui est divisé en chapitres, où on peut faire ça tranquillement.
Flâner dans le livre.
Ouais. Il y a des photos, il y a des cartes, il y a des dessins. C'est très complet, c'est très bien présenté, un très beau papier. Donc je comprends pourquoi Ponteil et Brésis est heureux. Enfin, je sais pas, on dit « est » parce qu'il y a 40 hameaux, c'est ça hein?
Oui, une quarantaine de hameaux, plus d'une quarantaine.
On a dit les Cévennes, mais c'est tout à fait au nord du Gard.
C'est au nord du département du Gard et on est entre, à la pointe du département, on est entre à l'ouest la Lozère et à l'est l'Ardèche. Voilà, donc à mi-chemin entre Villefort, les Vences et Genolac.
D'accord, on se situe un peu mieux. 360 habitants en tout.
Ouais.
Donc c'est une toute petite commune. C'est très bien qu'ils aient l'idée tout de même de faire cela. Hein. C'est un projet intéressant, ils veulent laisser trace. Est-ce qu'il y a des certifications dans ce hameau, comme un peu partout, non?
C'est-à-dire que la caractéristique qui est importante, c'est qu'on a la Cèze qui passe au milieu de la commune, et on a beaucoup de rivières qui sont affluentes à la Cèze, donc il y a beaucoup d'eau, il y a des sources. Donc ça, c'est pour cela qu'il y a une quarantaine de hameaux, les gens se sont installés un peu partout, et il y a aussi énormément de forêts. Et c'est la Haute-Cévenne, donc on a de la montagne.
Et puis, c'est un village, donc ce sont des petits hameaux, mais il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de temple, il n'y a pas d'école. n'y a pas de bar, donc c'est un endroit où les hameaux sont disséminés, ça fait comme, comme une mosaïque de hameaux, mais il n'y a pas de lieu centre
de réunion,
où les gens se rencontrent. Et c'était la première difficulté. Et l'idée, de faire un livre portrait, c'était de dire mais qui on est ? Parce qu'on est, il y a 40 hameaux, mais le « on », il est composé c'est de qui ? Et moi, c'était ça un peu mon travail, c'est d'aller les voir les différents habitants et justement pas de me consacrer qu'aux anciens Cévenols qui auraient la culture et l'histoire.
C'est pas un livre souvenir, c'est pas un livre mémoire.
Non, c'est un livre présent, c'est une photographie de Ponteil et Brésis en 2024 avec toute une panoplie de personnes qui y habitent, qui y travaillent, les enfants, on a essayé d'en rencontrer, et c'est les retraités, il y a l'hôpital, parce que c'est quand même incroyable, c'est un village très peu peuplé, au fin fond des Cévennes, c'est perdu, il faut 1h45 depuis Nîmes pour y aller, et ils ont un hôpital, ils ont l'hôpital de Ponteil et Brésis. Donc c'est
peut-être
ce portrait très singulier.
L'histoire du pays, parce que je vois qu'il y a des repères historiques, l'hôpital doit avoir sa justification.
C'était au départ un sanatorium.
Ah, voilà.
Qui avait été construit dans les années 20, voilà, donc, et qui est devenu un grand hôpital maintenant, et qui est une grande chance pour l'environnement, sur 30 km aux alentours.
Ah, Alors, j'en profite pour dire, dans les carnets techniques, je dis les titres repères géographiques, repères historiques, caractéristiques, ressources, portraits, activités. Hein, donc, on voit bien, par exemple, l'histoire de l'hôpital. Au niveau des chapitres, donc là, c'est vous qui avez trouvé les titres, Agathe, en accord avec Bruno. Cap sur les Hautes-Cévennes, oui, c'est un cap, parce que 1h45 de Nîmes, il faut vraiment y aller. Au gré des rencontres, sous l'œil du Mont-Lozère, la vie au quotidien, donc actuellement, rendez-vous au village, matinée ensoleillée et demain, point d'interrogation. Alors pour vous, c'était nouveau, Agathe, puisque vous êtes journaliste, mais plutôt d'actualité. Et là, ce n'est pas du tout ça. C'est vous vous transformez en... En quoi ? Je ne sais pas.
Alors, comment le décrire ? Non, c'est vrai que moi, je suis plutôt j'ai plutôt l'habitude de faire du reportage d'actualité. Et donc, quand je prends 48 heures pour faire un reportage, c'est déjà long et beaucoup pour moi, puisqu'on est toujours dans cette, avec le chronomètre en tête. Et là, quand Bruno m'a proposé, le fait de travailler avec l'Atelier B avec Bruno, que je connaissais par ailleurs, moi, j'ai tout de suite été séduite, mais aussi par le fait de me dire, je vais aller en immersion. Le carnet de voyage, ça impliquait que j'y aille tous les mois. Quelques jours, je dormais chez l'habitant, alors notamment chez René qui m'a souvent accueilli, et de prendre mes habitudes. Donc, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce village ? Où est-ce que j'ai atterri ?
Une étrangère, en fait.
Voilà, et au fur et à mesure des rencontres, les gens me reconnaissaient quand des fois je les croisais, quand j'allais à la bibliothèque. Et ça, c'est... Alors, j'y ai été avec mon regard de journaliste. Je pense que ça, je l'ai toujours eu quand j'ai fait les entretiens avec les gens. Je posais mes questions comme je l'aurais fait quand je faisais un reportage. Après, l'écriture, elle est différente. Effectivement, on y met un peu de sensibilité. Je parle du Mont-Lozère parce qu'il est omniprésent. On a aussi longtemps essayé de trouver le fil rouge qui allait nous permettre d'aller d'un début à la fin d'une histoire. Enfin, une histoire, d'ailleurs, elle ne se termine pas parce qu'on interroge l'avenir. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail... C'est un travail d'écriture qui est assez différent d'une actualité que moi j'ai l'habitude de traiter au quotidien. Mais dans le fond, le travail que j'ai produit, ça ressemble vraiment à du reportage de terrain.
Et je trouve ce qui est très intéressant justement, c'est d'avoir fait cette partie carnet technique d'un côté et puis les chapitres de l'autre. Comme ça, on n'est pas, j'allais dire, embêté. Si on veut certains renseignements, on sait où s'adresser. Et puis si on veut être plus en immersion avec les gens... On écrit, donc on passe de l'un à l'autre.
Ouais.
Et puis, vous vous êtes régalé, Bruno, comme d'habitude, dans la mise en page. Ça, c'est votre travail.
C'est-à-dire que ce qui était important aussi, c'était la demande à Agathe de la part de la mairie. On parlera après de nos Sherpas, entre guillemets.
C'était en Himalaya, c'est pour ça que je comptais les Brésis.
Il était important de respecter la mission demandée à Agathe. C'était qu'elle soit libre. Et qu'elle laisse parler sa sensibilité aussi. Oui. Donc, qu'elle puisse raconter son propre carnet de voyage sans qu'on ait à intervenir à l'intérieur. Oui. C'était sa liberté à elle. Et moi, mes cahiers techniques, c'était pour justement pouvoir la soulager de ces choses un peu pas forcément agréables à écrire.
Oui, qui sont très intéressantes.
Mais qui sont importantes pour situer certaines choses. Voilà, donc c'était... Et je m'amuse beaucoup, j'adore les cartographies. J'adore
ça se sent, hein.
Mettre le nez dans de, analyser comme ça des données techniques et d'essayer d'en faire des schémas, expliquer des choses qui sont basiques des fois, mais qui peuvent être importantes pour comprendre une commune et puis surtout la vie des habitants là-bas, quoi.
Oui, c'est pour ça que je disais, on feuillette le livre, ce qui n'est pas du tout péjoratif. Hein. On peut revenir en arrière en se disant, tiens, là, il y a une très belle photo sur un ruisseau. Je vais aller voir à quoi correspond ce ruisseau, quelles sont les activités, etc. Alors justement, parlons des photographies. Il y a à la fin toute une liste de remerciements. Il y a vos photos, mais il y a aussi les photos des habitants, il y a les archives.
Alors, il y a des archives. On n'a pas trouvé énormément de photos, de vieilles photos. C'était très difficile Voilà. Et donc, ce qui est important, c'était de faire participer les gens. Et donc, il y a Jean-Pierre Boutonnet, qui est l'adjoint au maire, lui, qui adore faire de la photo, a participé énormément. J'ai aussi rencontré des gens, donc, par exemple, Prune Pelé, qui est botaniste, qui a fait un petit herbier que j'ai reproduit deux pages. Il y a aussi Manuel Jacquet, qui est guide dans la forêt, faune, flore, la lecture du ciel. Lui, il capte des images la nuit d'animaux, etc. Il y a un ancien facteur aussi qui a donné une photo. Il y a Clément Giordano qui nous a donné deux ou trois photos aussi. Voilà, c'était formidable. Donc, c'est un travail collectif aussi. Ouais. C'était important à
maintenir. Un travail collectif, justement, pour 360 habitants dispersés en 40 hameaux sans un lieu de réunion. Justement, ce livre, c'est ça, en fait, c'est son objectif. Alors, je disais, on feuillette le livre, on se balade, hein, on se balade dans ces beaux paysages. Et vous avez choisi comme musique Paolo Conte. Je pense que on sait pourquoi.
Bah, c'est la balade. Hein, et puis, c'est vrai que le livre, il raconte aussi, enfin, moi, je mets en scène, c'est au départ de Nîmes. On va à Nîmes et on monte en Cévennes. Rien que ça, il y a déjà une escapade. Une fois passé à l'Est, on va dans ces hautes Cévennes. C'est un dépaysement complet. C'est vrai qu'on s'est dit, Paolo Conte, ça va bien. On part en balade à Pontaillé-Brésis. Et je conseille à tous les auditeurs d'aller un jour faire un tour dans ce charmant village.
Ouais.
Senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Agathe Baudouin et Bruno Dehan pour ce livre Pontaille et Brésis, un coin de terre en Cévennes, carnet de voyage d'Agathe. Et mise en page, édition par Bruno Dehan, donc Atelier Baie, au prix de 20€. Alors, j'ai dit Pontaille et Brésis, c'est ça ou c'est pas ça?
C'est moi, Brésis, je dis Pontaille et Brésis.
Et moi, je dis Pontaille et Brésis, mais bon, les deux sont valables.
Alors, et les habitants?
Les deux, moi, j'ai rencontré des gens qui disaient, qui prononcent le S ou pas forcément.
Alors, les enfants de ces hameaux, ils vont à l'école où?
Ils vont à l'école dans le village voisin, à Vielvic, mais qui appartient à la Lozère.
La plupart. Et après, quand ils vont
Ils vont aller au collège à Villefort. Mmh. Très souvent aussi, dès le collège, ils peuvent partir. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Ils peuvent aller en internat. En tout cas, pour le lycée, la plupart sont déjà... Il y a une maman qui le raconte très bien dans le livre. Vivre dans ce genre de village, c'est de la petite montagne, hein, quasiment.
Ouais.
Et ben, ça veut dire qu'on va laisser les enfants partir à l'internat à minima au niveau à 15-16 ans, quoi, pour le collège.
Ouais. Donc, ce sont des choix. Et les personnes que vous avez rencontrées, alors vous m'avez dit qu'il y en a 60 qui sont présentes dans le livre, mais vous avez été imprégné par d'autres témoignages de personnes qui n'apparaissent peut-être pas. Après, ça s'est fait un peu cette, j'allais pas dire ce fourmillement, mais cet amalgame se fait dans votre esprit. Ce que vous avez collecté par-ci, par-là.
Tout à fait, puisque je suis revenue quand il y a eu la fête du 15 août, qui est un moment important à Pontaille-Brésil. J'allais aussi au marché de Génolac, qui est la commune un peu importante du coin où les habitants vont faire leur marché. On rencontrait des habitants, on a fait plusieurs manifestations, des concerts, parce que c'est un village où ils essayent d'organiser un concert par mois. Donc, c'est un village qui n'a pas la place centrale d'une commune ordinaire, mais finalement, en cherchant, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de liens entre les gens, ou en tout cas de liens. Et ben, c'était à nous d'aller le découvrir, le décrire, le raconter. Moi, ça a été mon travail pendant une année de recherche.
Ouais. Oui, parce que l'écriture, elle s'est faite après. En fait, j'ai noté, il y a d'abord collecte, en fait. Hein. C'est toujours un travail énorme. Après, il y a les carnets techniques qui se préparent en même temps que...
Non, oui, en même temps que l'écriture. Ouais.
En même temps que l'écriture. Et après, donc, la rédaction. Et ça vous a fait peur, la rédaction ou...
C'est-à-dire qu'au départ, donc j'y allais tous les mois, 3-4 jours sur place, et j'ai mis un petit peu de temps à cerner le village et à trouver un fil rouge. Je me dis, mais par où je vais commencer cette histoire ? C'était beaucoup plus difficile que quand je fais un reportage pour un quotidien. Là, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup plus de réflexion. J'en avais beaucoup parlé avec Bruno, on en parlait
Merci
aussi
Bruno
avec nos guides, donc avec autant Pierre, Jean-Pierre et René, qui ont été le trio qui nous ont vraiment accompagnés, un trio qui nous a accompagnés, pardon, pour ce livre. Et donc, je rencontrais les gens, je rédigeais sur mon ordinateur rapidement après chaque rencontre, je les décrivais aussi, j'essayais de raconter où est-ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient, dans quelle maison, dans quel hameau. Mais c'est vrai que la rédaction, je l'ai commencé sur ce long texte, j'ai commencé vraiment à la fin, quoi, en septembre dernier, une fois que je savais que je n'irais plus trop rencontrer les habitants.
Oui, il fallait vraiment passer à la phase construction-rédaction. Le livre fait 140 pages. Au niveau écriture, parce qu'il y a l'alternance des cahiers techniques et puis des photos, ça fait combien de pages d'écriture à peu près ? Vous n'avez pas compté ? Un tiers ?
Une centaine ?
Ah,
non,
plus que ça alors. J'aurais... Parce qu'il y a beaucoup... Enfin bref, ça faisait tout de même beaucoup.
Ouais,
pour vous, c'était difficile tout de même.
Non, parce qu'au final, j'aurais pu faire plus. Après, c'est des formations professionnelles. Il a fallu s'y mettre. Il a fallu trouver aussi un rythme d'écriture. Puis des fois, avec Bruno, on a retravaillé, on a redispatché certains chapitres. Mais il y a des chapitres comme sur l'eau, parce qu'il y a une vraie interrogation sur le niveau de la Sèze l'année dernière, qui était un niveau très, très faible. Moi, j'ai accompagné des gens qui cherchaient la source. On m'a expliqué comment l'eau arrive au robinet des habitants. C'est extraordinaire. On ne se rend pas compte que l'eau arrive dans les maisons de chaque hameau. C'est quelque chose d'incroyable que j'ai raconté. Et on s'est dit avec Bruno... Ça, c'est quand même important aussi de raconter comment la mairie, une petite commune de 300 et quelques habitants, gère l'eau et comment elle entretient les forages, etc., pour qu'il y ait de l'eau potable dans toutes les maisons. Ça, c'est raconté à la fois dans un texte et à la fois par un cahier technique.
Mais c'est très pédagogique, hein, parce que les carnets de voyage ne sont pas toujours nécessairement pédagogiques. Hein, et là, je trouve qu'il y a un côté, vous avez appris beaucoup de choses.
Alors, d'abord, moi, j'ai appris quelque chose et j'avais en tête une phrase que m'a dit Pierre de la rue du Camp, qui est le maire de cette commune. Il me dit, moi, je veux pas que tu me fasses un livre romantique sur les Cévennes. Et ça m'a vraiment accompagnée. Parce que moi, je suis nimoise et j'ai aucune racine cévenole. Et depuis ma ville, depuis Nîmes, quand je vais en Cévennes, c'est souvent pour aller cueillir des champignons, pour aller en balade. Donc, j'ai une vision idyllique, merveilleuse, quasi idyllique des Cévennes. Je fais des photos, c'est toujours très beau. quand on y vit au quotidien, on se rend compte que bah, les Cévennes, c'est aussi une problématique de déplacement, la mobilité, comment on fait quand on devient un petit peu âgé, les maisons qui ne sont plus, qui ne sont pas des maisons modernes, ce sont des vieilles maisons qui ne sont pas forcément adaptées pour le chauffage, etc. Donc, il fallait aussi que j'ai... J'aurais pu raconter les Cévennes, effectivement, comme je les voyais, très idylliques, comme vous dites. Mais la réalité des habitants, c'est que bah, pour se chauffer, il faut aller chercher du bois. C'est compliqué de faire de la rénovation de ces maisons. Ça coûte très cher. Trouver un artisan qui accepte de venir à Ponteil et Brésis, qui est loin de tout, c'est compliqué. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de mettre en avant. C'est pour ça que c'est pas... c'est un livre qui raconte un village.
Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle « La vie au quotidien ». Mais en vous écoutant tous les deux, quels sont les métiers de ces personnes, de ces 360 habitants? Il y a combien d'adultes là-dedans
Oui, on n'a pas fait les statistiques, mais parmi
non,
les...
Non, ce pas un livre de statistiques.
Non, ce n'est pas un livre de statistiques. je pense que ça doit être un tiers d'enfants, deux tiers d'adultes, on va dire, à peu près.
Et quelles sont leurs activités?
Alors, il y a pas mal de retraités quand même. Mm-hmm. La majorité, enfin, il y a une grande partie des habitants qui travaillent à l'hôpital, qui est un gros bassin d'emploi. Après, il y a des gens qui vont travailler à Villefort. J'avais rencontré une jeune femme qui travaillait à Nîmes, qui faisait la route tous les jours, Pontaillé-Brésis-Nîmes. Par exemple, ils vont travailler à Alès, ils sont artisans, ils sont enseignants, on a rencontré des enseignants, ils ont des gîtes, par exemple. C'est très varié.
Il y a quelques éleveurs aussi.
Et c'est donc des personnes qui ont fait le choix soit de familial, soit vraiment un choix de vivre là, à Ponteil et Brésis.
Il y a des gens qui sont vraiment attachés à leur village, qui essayent de rester sur leur village ou qui reviennent sur le village. Et puis, il y a des gens qui viennent s'installer plutôt pour leur retraite, ou des gens qui... quelques personnes.
Il y a des jeunes,
qui...
on a rencontré une famille aussi qui était venue s'installer parce que, effectivement, les Cévennes, vivre avec ce mont Lozère qui nous observe, c'est à la fois rude, mais ça peut aussi vous donner une force, je pense. C'est ce qu'on ressent quand on parle avec les habitants.
C'est intéressant justement entre fantasme idyllique et la réalité. Moi, je pense au climat. Moi, je suis pas non plus du tout de la région et je pensais pas que dans les Cévennes, il faisait surtout la haute Cévennes, il faisait si froid l'hiver et que
il fait froid,
vraiment
le ciel
coupé de tout quoi. C'est
complètement. Oui. Et il y a de la brume. Nous, on a passé des journées où le ciel gris est resté toujours à hauteur du clocher du village. Donc il y a des journées qui ne sont pas ensoleillées, qui sont grises. Oui. Et puis, à contrario, l'été, il fait aussi très, très chaud.
Alors, la Cèze, quand elle est
à un bon niveau, on va s'y baigner. Mais il y avait quand même, l'été dernier, on était dans une période critique de sécheresse. Et ça montre aussi vraiment le défi de ce village, c'est justement le climat et comment faire en sorte de maintenir une activité dans ce village, parce que la forêt prend énormément de place et de plus en plus de place.
C'est pour ça que le dernier chapitre, et demain, point d'interrogation, c'est, je vois qu'il y a la forêt, les animaux, les plantes dans les ressources, et demain. Mais là, je dirais que l'écologie n'est pas en cause, à la limite c'est trop écologique presque, non?
C'est-à-dire qu'ils vont avoir le défi de gérer leur patrimoine forestier. La forêt, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Enfin, les agriculteurs sont partis. Aujourd'hui, c'est difficile de faire revenir cette activité. Or, ce sont quand même les agriculteurs et les éleveurs qui permettent au paysage d'entretenir les prairies, etc. Et s'il n'y a pas ça, la forêt va gagner du terrain. Et là, du coup, c'est quand même un vrai défi de gestion de l'environnement.
Et vous parliez, vous avez remercié le maire, les adjoints, les guides, etc. Ils sont optimistes, ils sont... Vous avez ressenti, vous, Agathe, dans les témoignages, vous, Bruno, dans les documents techniques, vous avez ressenti un optimisme, un attachement, certes, on ne le remet pas en cause.
C'est-à-dire que les gens... Après, je ne sais pas, l'optimisme, pas l'optimisme, tout est... On a eu pas mal de discussions, mais ce qui est important aussi...
C'est une réalité. Ils veulent que leur village vive.
C'est une réalité. Puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont retroussé leurs manches aussi. Et qui, par exemple, le village, avec le village voisin Saint-André-de-Cap-Cèze, ont organisé l'élaboration d'un atlas de la biodiversité. Donc il y a eu tout un travail réalisé pour justement mieux connaître la biodiversité, puisque ça fait partie du parc national des Cévennes. Et donc il y a eu tout un travail mené avec les enfants dans les écoles. Notre livre Et demain se termine sur des travaux d'enfants justement, qui ont réfléchi justement à travers ce travail autour de l'Atlas. Après, l'optimisme, bon, c'est vrai qu'il y a le danger du feu, il y a le danger de... Il y a beaucoup de choses. Et la biodiversité, la forêt a un avenir si on lui maintient aussi une variété d'espèces, une biodiversité justement importante, et non pas si... Le danger, c'est toujours d'avoir une seule essence qui est invasive, le pin par exemple. Donc tout ça, c'est du travail au quotidien, c'est du travail... c'est beaucoup de travail, mais en même temps, je pense que c'est... Les gens sont plutôt dans l'action.
Ils sont là, oui, ils sont dans l'action. Oui, je pense que plus qu'optimisme, c'est dans l'action. Quoi. Ils sont là. Et si, pour conclure, puisque c'était une commande, en fait, de Ponteil et Brésis, Agathe, après, c'est Bruno qui vous a sollicité. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement? Je ne sais pas si c'est Bruno qui commence ou Agathe. D'abord, le beau livre. Hein.
La satisfaction d'avoir réalisé
cet ouvrage.
C'est
un très beau livre, très bien illustré, très bien mis en page. Mais ça, chez Bruno, c'est habituel. Bravo.
Moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est de voir, justement, vous me disiez, on parle d'optimisme. Moi, je trouve qu'il y a un engagement de la part des habitants qui vivent dans les Cévennes qui est quand même assez remarquable et assez singulier parce que ce sont des bâtisseurs, je parle des hommes et des femmes, ils savent réparer leur maison, ils savent faire leur potager, c'est très important. Et les gens qui sont dans la mairie, on n'imagine pas le travail qu'il faut pour faire vivre une petite commune comme ça. C'est la mairie qui devient quand même un petit peu le trait d'union entre tous les habitants. Dès qu'il y a un problème, les habitants, ils se tournent vers le maire et... Ça note quand même
un engagement
dans cette ruralité. Effectivement, si on n'a pas des hommes et des femmes qui sont engagés, et pas forcément que les élus, ces villages-là, ça ne pourrait pas fonctionner, ne pourrait pas vivre. Et là, en fait, pour faire de l'union, pour faire un collectif, il faut que les habitants et les gens... Alors, c'est vrai qu'on est attaché aux Cévennes. Je pense que quand on y habite et quand on vit là-bas, on est un petit peu captivé. Mais moi, je retire mon chapeau parce que je trouve quand même que c'est un engagement... sans rien en retour, sans rien demander en retour.
Oui, c'est rude et c'est sans fin. Quoi. Donc, la journaliste qui a fait ce premier travail, là, est très satisfaite, en fait, de cette expérience. Et vous, Bruno ?
Alors, moi, je rejoins Agathe sur le côté très débrouillard des gens qui, effectivement, elle a tout à fait raison. Hein. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Et aussi le fait que les gens savent se débrouiller et savent se prendre en main. Ils sont obligés de construire, de l'eau, d'entretenir, etc. Alors, il y a quelques artisans qui vivent sur la commune, ça c'est formidable aussi. Mais ça signifie quand même que les gens doivent se débrouiller.
Se débrouiller, pour être autonome. Donc, un très beau coin de terre en Cévennes que vous pouvez donc découvrir. Maintenant, je sais où c'est, Ponteil et Brésis. Donc, dans le livre, aux ateliers Paix, écrit par Agathe Baudouin et édité par Bruno Dohan. Merci à tous les deux.
Merci Sylviane.
Au revoir, Sylviane.
Avec les gens.